Bonjour à tous. Le thème de notre église de cette année, c'est connaître Dieu. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de connaître le Dieu d'Israël. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, on est à l'aise quand on lit le Nouveau Testament, mais on n'est pas trop à l'aise quand on lit l'Ancien Testament. Alors, pour parler de connaître, le mot connaître en grec signifie une connaissance intellectuelle. Alors qu'en hébreu, c'est avoir une relation correcte avec la personne. Et ce mot connaître, Jésus l'a dit dans Jean 17, 3. Je lis la version Summer. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Ensuite, dans 1 Samuel 2, 12, la Bible nous dit, les deux fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Je vous montre ces deux versets, c'est vraiment une contraste pour vous montrer que connaître l'Éternel, connaître Dieu, c'est quelque chose de vraiment profond. C'est pas connaît comme ça. Les fils d'Élie, c'est pas le prophète Élie sur le qui est l'époque de Achab, c'est l'Élie à l'époque de Samuel. Ces deux fils n'ont pas connu l'Éternel, c'est pour ça ils sont vraiment commis le mal aux yeux de l'Éternel. Connaître une personne, ça prend du temps. Il faut, si je veux connaître Michael, il faut que je passe un peu plus de temps. Bon, je vais prendre Alice plutôt. C'est ça. Si je veux connaître Alice, donc passer un peu plus de temps avec elle, discuter, voir sa conduite, tout ça, pour en tirer conclusion, pour voir si je peux lui faire confiance. Et moi, c'est pareil, quand j'étais touchée par le Seigneur en lisant la parole de Dieu, j'étais touchée par Jésus, par son sacrifice à la croix, c'est mon émotion qui était touchée. Mais comme je suis assez intellectuelle, donc je veux connaître d'abord un peu quand même plus que qui est Jésus, qui est Dieu, pour que je puisse engager, lui donner ma vie. Pour ça d'abord, ma cousine m'a dit tout de suite, tu fais le vœu, mais je dis non, je vais lire la Bible, quand j'aurai mieux compris, que connaître un peu mieux, donc j'ai suivi, je lisais la Bible tous les jours, je commençais par le Nouveau Testament, et je suis allée voir un pasteur, une fois par semaine. Au bout de 4-5 mois, j'ai bien compris que c'était vraiment ce Dieu à qui il sacrifiait sa vie pour moi. C'est réel, c'est vrai, et je pense que le Saint-Esprit agit en moi. Et c'est à partir de ce moment-là, je dis à mon pasteur, oui, je prends le baptême et je veux vraiment m'engager à lui donner ma vie. Donc connaître quelqu'un, c'est vraiment, si on connaît pas bien la personne, on peut pas lui faire confiance, on va pas. Si vous avez un copain qui arrive toujours en retard, est-ce que vous allez lui demander de t'amener à l'aéroport? Voilà. Bon, voilà. Donc, en fait, le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu de notre Dieu, de tous les chrétiens. Et parce que je voulais vous parler sur le texte de Jérémie et vous parler un peu sur l'Ancien Testament, c'est pour ça que j'ai choisi de dire connaître le Dieu d'Israël. Donc pour commencer, pour l'Ancien Testament, pour mieux comprendre, c'est bien de comprendre un peu le contexte. Et je trouve que moi, quand je lis l'Ancien Testament, il y a un contraste énorme entre Dieu et puis les hommes. En ce moment, je lis la Bible en un an, donc je lisais 4 chapitres, mais quand ça me prend, je suis capable de lire 20 chapitres d'un coup, et c'est très bien parce que ça me permet de voir le début à la fin. Et là, quand je lis l'Ancien Testament, je parle du Samuel, roi, tout ça, je suis vraiment émerveillée, touchée par l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la passion de Dieu, pour vraiment sa justice, sa fidélité, comme il a chanté. Et de l'autre côté, je suis choquée par tous les crimes, les horreurs que les hommes ont commis, quoi. Je pense au double crime de David, je pense à Saul, tout ça, c'est franchement. Donc, l'Ancien Testament nous apprend vraiment beaucoup de choses sur Dieu, ce qui est Dieu, sur ses œuvres, ses attributs, ses projets, ses promesses, sa volonté. Et de l'autre côté, il nous montre bien tous les mauvaises conséquences des péchés qu'il y a en nous, en l'homme. Voilà, donc, pour commencer, j'ai mis. J'ai fait les chapitres, donc ça va venir. Alors, chapitre 1. Salut. Bon, c'est pas grave. Je vous veux parler sur 5 chapitres. Le chapitre 1, c'est Dieu a choisi Israël. Israël, c'est un peuple unique au monde. Parce que c'est à partir de la volonté de Dieu qu'il a formé. Il a choisi Abraham, le ascendant, l'ancêtre du peuple Israël, après Abraham, Isaac, Jacob, avec ses 12 fils qui sont devenus des 12 tribus. Ils étaient 70 hommes descendus en Égypte. Et là, Dieu les a bénis. Dieu a donné une promesse à Abraham que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles, aussi nombreux que les poussières de la terre, et que sa descendance va être durée éternellement. Donc, à partir des 70 hommes en Égypte, Dieu les a tellement bénis, ils se sont tellement multipliés, ils sont tellement devenus nombreux que les Égyptiens ont pris peur, ils ont opprimé, et au moment choisi par Dieu, 400 ans, selon une version, 430 ans, Dieu a entendu leur cri, Dieu a eu pitié d'eux, donc Dieu les a libérés d'Égypte à travers Moïse. Une fois libérés, ils sont libres. Et Dieu veut vraiment faire au Mont Sinaï, Dieu a conclu une alliance avec eux. Dieu veut qu'ils deviennent son peuple et Dieu veut être leur Dieu. Mais, donc là, ils vont devenir peuple de Dieu. Et quand on est dans le royaume de Dieu, avant qu'ils sont devenus enfants, peuple de Dieu, en Égypte, ils suivaient les coutumes et tous les cultes avec plein d'idoles. Donc là, comme Dieu est saint, pour former son peuple, il va donc donner la loi à travers Moïse pour les former. C'est pareil. Quand vous entrez en France, vous êtes obligé de suivre tous les règlements du pays français. Si vous allez aux États-Unis, c'est leur règle. Donc là, ils sont dans le royaume de Dieu, ils ont des règles, les lois à suivre pour qu'ils puissent avoir, comme on a chanté tout à l'heure, que Dieu est saint. Donc ils sont un peuple dont le Dieu est saint, il doit avoir un code de conduite beaucoup plus élevé que les autres peuples païens. C'est pour cela que Dieu leur a donné la loi dont vous connaissez tous les 10 commandements, avec les autres lois. Les deux premières, le plus important, c'était vraiment aimer Dieu seul. Le deuxième, c'est ne pas avoir d'idole et prosterner devant les idoles. Ensuite, Dieu l'a dit à travers Moïse, avant qu'ils soient entrés dans le pays promis, vraiment que les pères parlent de ce que tous les bienfaits que Dieu a fait pour eux et tous les miracles, vraiment tout ce qu'ils ont reçu de Dieu, qu'ils les enseignent à leur génération en génération. Justement, c'est pour qu'ils ne l'oublient pas, la grâce de Dieu, les bienfaits de Dieu, qui est les œuvres de Dieu dans leur vie. Dans Deutéronome 7, 6, 9, je vais vous lire quelques versets. « Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. » T'es choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qui vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, la main du Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Donc à partir de ces versets, nous voyons que Dieu est fidèle. Il tient parole, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. C'est le contraire de nous. Soit on dit qu'on ne fait pas, et on ne fait pas ce qu'on dit. Donc là, Dieu est vraiment fidèle. Ensuite, avant d'entrer dans la terre promise, Moïse leur a averti, une fois que vous êtes entré dans la terre que Dieu vous a préparée, une fois que vous êtes enrichi, vous êtes rassasié et tout, surtout n'oublie pas Dieu, que toute votre bienveillance, votre bénédiction, tout ça, ça vient de Dieu. Ne vous dis pas que c'est moi, par ma main, que j'ai enrichi tout ça. Vraiment, Dieu sait que une fois qu'ils rentrent dedans, ils vont tout oublier, et c'est pour ça que Dieu a parlé à travers Moïse, à travers Josué, pour leur rappeler que vraiment, surtout, ne pas oublier Dieu. Et dans l'alliance que Dieu a fait avec le peuple Israël, il y a deux parties. Une partie, Dieu est souverain, et l'autre partie, ils sont vassals. Donc Dieu s'engage à les protéger, à pourvoir leurs besoins, à les garder, mais ils ont aussi des conditions à respecter. Donc le peuple Israël doit vraiment une fidélité totale à Dieu. Et comme image, Dieu s'est présenté comme un époux. Le peuple Israël comme une épouse. Bien sûr, dans le mariage, chaque partie doit être fidèle à l'autre. Dieu, il est fidèle à son peuple. Il demande à ce que l'épouse, le peuple Israël, soit fidèle à Dieu. Donc, pas d'autres hommes que ici. C'est pas d'autres dieux que Dieu. C'est pour ça, quand vous lisez les Anciens Testaments, quand Dieu les accuse de adultère, débauché, prostitution, c'est pas, il faut pas lire littéralement. C'est une image. Parce que l'Israël a abandonné Dieu, oublie Dieu, rejette Dieu, et va vers les dieux des peuples païens. Ils vont auprès de Baal, Astarté, ou Moloch. Et ça, pour Dieu, c'est, ils sont infidèles, ils ont commis l'adultère. Et la prostitution vise aussi quand ils sont attaqués par un ennemi. Le roi David fait toujours appel à l'Éternel. Consulte l'Éternel, tout à l'Éternel. Mais le peuple, il ne consulte pas l'Éternel, il ne dépend pas, il appelle pas l'Éternel au secours, mais il prend l'argent qu'ils ont, vont payer des mercenaires d'un autre pays pour venir les aider, pour faire fuir l'ennemi. Ça, Dieu n'admet pas non plus, vous parlez de ça, de prostitution ou de débauche. Parce qu'ils ne comptent plus sur l'Éternel. Ils ont oublié que c'est par la main puissante qu'ils sont sortis d'Égypte et que Dieu a combattu pour eux, chassé cette nation au pays des Canaan pour leur donner le pays promis. Voilà, dans le péché de Dieu a choisi Israël. Mais bon, le chapitre 2, c'est le péché d'Israël. Alors, à l'époque de Jérémie, vous connaissez un peu l'histoire d'Israël. Donc, à partir de Exode, avec Josué, après la mort de Moïse, Josué a remplacé Moïse. Il a conquis, Dieu a permis qu'ils ont conquis la terre promise. Donc, après, ils sont rentrés dans la terre promise, dans le Canaan. Vous connaissez tous à peu près les juges. Ça a duré une période de 450 ans. Dans cette période, c'est un cycle qui recommence, qui rebelote. D'abord, quand Josué est mort, ils ont oublié Dieu, ils sont allés vers les autres dieux. Et comme sanction, Dieu l'a dit quand ils ont conclu l'alliance, Dieu leur donne leurs ennemis pour les opprimer. Quand ils sont oppressés, ils pleurent, ils supplient Dieu. Dieu, dans sa compassion, dans sa bonté, il répond à leurs supplications, il envoie un juge qui les enlève de l'oppression. Et une fois, pendant toute la vie du juge, il se tient à carreau, il adore Dieu. Quand le juge est mort, rebelote, ainsi de suite. Donc, il y avait, pendant les 450 ans, il y avait 13 juges, en comptant Élie et Samuel. Ensuite, il ne veut plus Dieu comme leur roi. Il a demandé d'avoir un autre roi, comme les autres pays païens. Il préfère marcher derrière un roi homme que mené par le roi céleste. Mais Dieu, dans sa bonté, encore dans sa passion, il a répondu à leur demande. Il leur a donné le roi Saul d'abord, mais comme Saul était infidèle, à deux fois de suite, il a désobéi aux commandes de l'Éternel. Dieu l'a rejeté. Mais malgré son désobéissance, moi je suis vraiment, vraiment admirée par la passion de Dieu, parce que je me suis dit, Saul, il t'a pas obéi deux fois de suite. Tu lui as dit, tu as enlevé son règne, mais Dieu l'a laissé régner 40 ans. Alors, je me suis dit, Dieu est vraiment patient. Bon, ensuite, Dieu a vraiment choisi David, qui est l'homme selon son cœur, c'est ce que Dieu dit. Mais quand je lis la vie du roi David, oui, c'est vrai, il est presque le seul roi qui a le cœur tourné vers Dieu. Mais quand on arrive au crime qu'il a commis, adultère avec la femme Uri, et encore assassiné Uri, ça vient du roi David. Mais la Bible nous a tracé tout ça, ça nous montrait que vraiment, même un homme, selon le cœur de Dieu, n'est pas parfait. Et ça nous montre vraiment le péché en nous, ça peut, quand on convoite quelque chose, ça nous pousse à faire des choses que nous-mêmes, on ne peut pas contrôler. Donc le roi David qui a commis ces deux crimes, qui est passable de peine de mort, selon la loi de Dieu, mais il n'y a aucun sacrifice qui permet de vraiment demander pardon à Dieu. C'est vraiment peine de mort. Mais quand le prêtre, le prophète Nathan lui a venu dire ça, il s'est repenti sincèrement de son cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'a pardonné. Mais là aussi, je dis vraiment, ça montre bien la bonté de Dieu, vraiment la clémence de Dieu, vraiment. Dieu est grand. On a chanté, vraiment, c'est, moi, je sais pas, si c'était toi et moi, est-ce qu'on va pardonner le roi David qui vient commettre un adultère et un meurtre en même temps? Mais Dieu est, il dépasse notre pensée, il est grand. C'est cela pour vous dire, on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. Donc, toutes les personnes qui vous disent qu'ils sont sauvés par les œuvres, vous pouvez sortir l'exemple du roi David. Il a commis deux crimes horribles et, avec sa repentance, Dieu l'a pardonné. Ça me fait penser, ça vous pouvez penser à qui aussi? Au brigand qui est crucifié à côté de Jésus-Christ, à sa droite. Pareil, celui-là, il a commis tous les crimes horribles, mais juste à la fin de sa vie, il a eu foi en Jésus, il s'est repenti, et voilà, Jésus a dit, aujourd'hui, tu es avec moi au paradis. Voilà, c'est vraiment, montre bien que Dieu, il est vraiment bon, il est vraiment plus que bon, il est grand, et vraiment, il cherche vraiment à nous pardonner du moment où on se repent. Voilà, chapitre 3, j'ai toujours pas. Ah oui, à l'époque de Jérémie. Jérémie, c'est un prophète qui est un des derniers prophètes dans le royaume du Juda. Il a exercé pendant 40 ans. On dit souvent que, parfois on se moque de Jérémie, dire que c'est un prophète qui pleure. Mais c'est vrai, il y a de quoi pleurer si on est dans sa situation. Il était témoin de toute la décadence du peuple de Juda jusqu'à la destruction de Jérusalem. Il a vu passer 5 rois. Josias, Joachas, Joachim, Joachim, Sédécias. Donc, au départ, Dieu a dit à Jérémie, je t'ai choisi avant même que t'es conçu dans le ventre de ta mère. Et lui a dit de ne pas se marier, parce qu'il n'a pas le temps de faire les plaisirs, parce que les malheurs vont tomber sur Juda. Il a vraiment obéi. Dieu lui a dit d'avance, tout ce que tu vas dire au ce peuple, ils vont pas t'écouter. Donc, si tu enseignes tes enfants, ils t'écoutent jamais, est-ce que tu vas pleurer? On comprend pourquoi Jérémie pleure. Donc, au départ, Dieu donne encore une, on va arriver au 3, la miséricorde de Dieu. Dieu est encore vouloir, il veut encore pardonner à ses enfants. Malgré tout, alors, à l'époque de Jérémie, d'abord, les crimes dont ils ont fait, la première chose, c'est infidélité. Donc, ils ont vraiment adoré tous les autres dieux que Dieu même. Pour vous citer quelques exemples. Jérémie 7, 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument de feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux en honneur de la reine du ciel et verser des offrandes liquides en honneur d'autres dieux. Donc, il offre un culte aux autres, à une déesse et à Astarté. En plus, ils sont vraiment, ils commettent injustice. Dieu leur dit dans Jérémie 5, 27, tout comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont gros, ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils n'exercent pas le droit de l'orphelin, et prospèrent. Ils ne font pas justice aux pauvres. Alors après, les prophètes ne prophétisent pas que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leur propre intérêt. Là, Jérémie 6, 13, Dieu résume tout leur mal. En effet, des plus petits d'entre eux jusqu'aux plus grands, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Voilà. Vraiment, à l'époque de Jérémie, Dieu vraiment est vraiment très en colère parce que personne ne cherchait Dieu. Ils ont oublié Dieu. Ils sont allés envers les autres dieux qui sont que néant. Voilà. Maintenant, je reviens à la miséricorde de Dieu. Donc, avant que Dieu a encore décidé que le malheur va tomber sur eux, Dieu a envoyé Jérémie leur avertir, demander qu'ils reviennent à Dieu. J'ai relevé quelques versets, mais franchement, là, Dieu ne veut pas encore les punir. Malgré tous les crimes, toutes les choses qu'ils ont commis, Dieu leur donne encore la dernière chance. Tant qu'il est temps. Jérémie leur a dit, repentez-vous, changez votre conduite et vous serez vraiment encore bénis. Alors, pour la repentance, je vais lire dans Jérémie 3, 12. Va crier ces paroles vers le nord, va dire, reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous, car moi je suis fidèle, déclare l'Éternel. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Reconnais seulement ta faute. Oui, tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu, tu t'es démêlé de tous côtés vers les dieux étrangers. Sous tout arbre vert, et tu n'as pas écouté ma voix, déclare l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ils prendront soin de vous. Un autre verset. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez-vous votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent. C'est ici que le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que je vous ai donné à vos ancêtres depuis toujours pour toujours. Voilà, Dieu est vraiment là, on va dire, il est presque comme une maman qui supplie son enfant, ses enfants, son peuple. Reviens à moi, il y a encore temps. Tu peux ne pas faire venir le malheur sur vous. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils n'ont pas écouté Jérémie, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Donc, alors là, c'est. Donc, Jérémie pleure pour ça aussi, parce qu'il voit bien que le malheur va arriver, le désastre va arriver, mais les peuples, ils étaient dans inconscience. Ici, je suis dans la prospérité, je suis dans la paix. Ils ont une. Parce qu'à cette époque, l'Israël du Nord est déjà tombé depuis un moment déjà. Parce que l'Israël du Nord, Israël, qui commet beaucoup de mal, il n'y a aucun roi d'Israël du Nord qui sont bons. Dieu les a fait déjà détruits par les Assyriens, à peu près 100 ans déjà. Donc, Juda, qui sera du Sud, il se prend fier et dit, oui, ben, nous, on a le temple de l'Éternel avec nous, donc l'Arche de l'Alliance avec nous. Ils pensent qu'à cause de ça, grâce à ça, Dieu est avec eux. Mais là, ils sont franchement rien compris. Dieu ne peut pas être dans le temple où c'est profané, c'est souillé. C'est pas, il y a l'arche. L'arche ne symbolise pas la présence de Dieu. Ce que Étienne a expliqué plus tard dans son discours. Voilà. Donc vraiment, il se dit, et les prophètes aussi, il leur dit, c'est la paix. Et Jérémie leur a dit aussi, quand les Babyloniens viennent attaquer Jérusalem, Dieu leur a parlé à travers Jérémie, leur a demandé, soumettez-vous aux Babyloniens. Comme ça, ils vous laisseraient vivre, vous, et la ville, Jérusalem, ce ne sera pas détruit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Voilà le jugement de Dieu qui arrive. Ton Dieu utilise l'armée babylonienne qui vient de très loin, d'Euphrate. Là était Abraham, c'était venu de par là. Donc là, les Babyloniens sont arrivés, ils sont devant Jérusalem, et comme ils ont refusé d'être soumis, ben, il y a le siège, il y a l'attaque et tout. Donc, pareil, ils font sourde oreille à tout ce que Jérémie leur demande de faire. Mais en fait, ils font la sourde oreille au conseil de Dieu. Donc, du coup, tout ce qui doit arriver, c'est arrivé. Donc, ben, Jérusalem est détruit, le temple aussi. Et tout le peuple, et la plupart, est déporté. Le roi, c'est pareil. Sédécias, il n'a pas écouté Jérémie. Il s'est enfui. Finalement, il a été rattrapé. On a tué tous ses enfants et il était crevé des yeux. Voilà donc ce qui arrive quand ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Mais dans tout cela, Dieu l'a dit dans Jérémie 5, verset 18. Mais même durant ces jours-là, déclare l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Donc là, ça nous montre encore la bonté extrême, genre infinie, l'amour. Malgré tout le mal qu'ils commettent, et Dieu laisse encore un reste. En fait, quand vous lisez Jérémie, quand Jérémie voit la marmite avec la viande dedans, ça veut dire que la viande, c'est les Judéens, la marmite, c'est Jérusalem, et le feu qui brûle, c'est les Babyloniens. Eux, ils pensaient qu'ils sont l'avion. Eux, ils interprètent dans ce sens-là, les Judéens. Ils sont des marmites dedans. Ils ne sont pas atteints par... ils sont protégés par la marmite. Et finalement, ça ne veut pas dire ça. C'est que l'avion qui est bouillon, c'était eux qui ont été bouillis par Dieu à travers les Babyloniens. Ils se croient toujours en paix, en sécurité, parce qu'il y a le temple de l'Éternel qui est à Jérusalem. Non, c'est pas vrai, quoi. C'est vraiment, c'est le cœur. Si leur cœur ne tourne pas vers Dieu, Dieu l'a dit aussi, déjà dans Ésaïe, ne m'offrez pas les holocaustes, ne m'offrez pas les sacrifices, puisque votre cœur n'y est pas. c'est un peu comme nous si on vient à l'église, pas avec notre cœur à adorer Dieu, à écouter l'enseignement de Dieu, si on vient seulement parce que c'est une habitude, je viens tous les dimanches matin à l'église ou l'après-midi à l'église, là, je pense pas Dieu va créer notre présence dans l'église. Voilà, donc vraiment Dieu est vraiment l'amour infini, bonté infinie, patience infinie, tout est infini. Alors on va arriver à la promesse de Dieu. Jérémie, pourtant, il a été témoin de la destruction de Jérusalem, du temple. C'est pour cela que vraiment, il y a quoi à pleurer, quoi. Il est triste. Mais Dieu est bon. Il a chanté tout à l'heure. Il est vraiment bon. Donc Dieu a promis à David, quand David a parlé de son idée de construire un temple pour l'Éternel, Dieu a fait parler par Nathan à David. Dieu lui a donné cette promesse dans 2 Samuel 7, 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton règne sera pour toujours affermi. Et voilà que dans Jérémie 33, 14, 15, Dieu l'a encore donné sa parole. Alors que la ville de Jérusalem est déjà détruite, le temple est détruit, mais Dieu a parlé à travers Jérémie. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée à l'intention de la communauté d'Israël et celle de Juda. Durant ces jours-là, à ce moment-là, je ferai pousser pour David un germe de justice. Il exercera le droit et la justice dans le pays. Voilà, ce germe de justice qui vient de la famille de David, qui exerce le droit et la justice dans le pays, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. Donc, vraiment, Dieu est fidèle. Il promet, tout ce qu'il promet s'accomplit. C'est comme Abraham qui a pensé que cela qui a poussé Abraham d'accepter sacrifier Isaac, qui pensait qu'après Dieu l'a ressuscité. Dieu est fidèle. Dieu accomplit tout ce qu'il a dit. Donc à travers nous voyons vraiment à travers tout ce que nous avons lu ensemble que c'est vraiment Dieu est bon et juste. Dieu a dit à... Ah oui, tu peux passer le... Voilà, c'est ce que Dieu leur a averti et leur a... Je vais lire. Pourquoi Dieu leur a sanctionné. Donc, je vais vous lire Deutéronome 30, 15 à 18. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà de Jordan, où vous rendez pour en prendre possession. Voilà, Dieu les a avertis. Et après, en plus, il a encore fait parler Jérémie. Donc, comme ils ont souillé et profané le temple de Dieu, Dieu qui est saint, ne peut pas encore être présent dans ce temple. C'est obligatoire qu'ils quittent ce temple. Et comme ils ont commis adultère sur adultère, Dieu, il est fidèle, mais il est quand même oublié de se... Ils ont oublié Dieu, ils ont rejeté Dieu, mais Dieu... dont est oublié de les rejeter. Mais quand même, dans sa immense bonté, il a gardé un reste. Et c'est à partir de ce reste qui vient de la postérité de David que vient le Messie Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et notre Seigneur pour nous aujourd'hui. C'est pour cela que je vous ai dit dès le départ, le Dieu d'Israël, c'est aussi notre Dieu à nous. Mais c'est vrai, dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël, il s'est présenté surtout en la personne de Dieu le Père, et secondairement en Saint-Esprit. Alors que le Nouveau Testament, Dieu nous révèle personnellement à travers son Fils, ensuite le Saint-Esprit. Et je trouve que vraiment, la Bible nous révèle vraiment beaucoup, beaucoup la Dieu, et en lisant la Bible, vraiment, ça nous permet de connaître Dieu, et avec l'illumination du Saint-Esprit, nous pouvons vraiment connaître Dieu, avoir une relation intime avec Dieu. Pour vous dire que vraiment, le Dieu Israël, c'est aussi le Dieu. C'est hier, aujourd'hui, demain, il est toujours le même. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment le verset 9, Jérémie 9, verset 24. Celui qui veut éprouver de la fierté, mettre sa fierté dans ceci. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. C'est ce que Dieu a demandé à son peuple, le peuple Israël, dans l'Ancien Testament. Puisqu'ils sont le peuple de Dieu, ils doivent refléter les caractères de leur roi. Donc, à nous maintenant, les nouveaux enfants d'Israël, de Dieu, ils nous demandent aussi, pareil, exercer la bonté, le droit, la justice envers nos prochains. Mais c'est vrai, le plus... Le premier commandement, c'est ce que Jésus a dit, aimer, adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup maintenant lire l'Ancien Testament, alors qu'avant je ne l'aimais pas trop. Je trouve que, je vous conseille, quand vous lisez, c'est bien de lire, ne pas lire un chapitre par jour. Prends un temps et lire vraiment tout... à peu près tout le morceau en même temps, on a vraiment la globalité, on saisit beaucoup plus. C'est ce qui m'arrive cette année quand je lis comme ça. Et pour moi, Dieu, vraiment, je suis toujours touchée par la passion de Dieu. Le peuple Israël, depuis l'Exode jusqu'à le dernier roi, ça a duré 859 ou 857 ans. Vous voyez, pendant tout ce temps-là, il n'y a pas de nombreux bons rois. Il y a le roi David, ça compte sur le nombre des doigts, ça même pas au-delà. Et malgré ça, Dieu, malgré leur mal, leur péché, Dieu les a quand même laissés pendant presque, on va dire, 900 ans. Dieu est vraiment patient. C'est pour cela que la Bible nous dit: Dieu, tu es riche en bonté, lente à la colère. Ce lente à la colère, ça applique à Dieu, hein, ça peut pas appliquer à moi, hein, en tout cas. Est-ce que vous êtes lent à la colère pendant 900 ans? Vraiment, Dieu est super, quoi. Voilà. Avant de terminer, vraiment, je vous, exemple de lire Lamentations, ouais, 3, 26. J'aime bien ce verset. On va lire ensemble. 22. Chaque matin, elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté. Pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Amen. Voilà, je vous exhorte vraiment, quand vous êtes dans la détresse, dans les épreuves, dans tout ce qui est comme si le monde vous tombe dessus, récitez la parole du Seigneur. les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Ça vous laisse une lumière, un espoir, et vous allez vraiment vous lever. C'est vraiment super quoi. Voilà. Et je vraiment vous conseille vraiment de lire. J'espère que en vous présentant sous cette forme, ça vous donne envie de lire l'Ancien Testament. Voilà, gloire à Dieu.